Voilà, bonjour. Les ados nous quittent pour un moment à part qu'on leur souhaite béni. Il y a des choses bizarres des fois dans la nature, hein, comme cette image d'un guépard et d'une antilope qui vient se frotter sur le cou de cet animal réputé quand même dangereux d'habitude. Ainsi en est-il aussi dans la Bible, il y a certains textes qui pourrait nous surprendre. Et celui que je vous propose de parcourir ce matin, c'est pas un texte facile. Je l'ai pris parce que ça me parlait, ça me permettait aussi de partager quelques éléments qui paraîtront aussi certainement bizarres à plusieurs parmi nous. Je prends le risque. Je suis comme David, je suis en fin de règne. Je risque plus grand-chose et... C'est vrai qu'on a pu parcourir la vie de David, qui a vécu 70 ans. On est bientôt au bout. Et à la fin du deuxième livre de Samuel, il y a quelques récits, 4 chapitres, qui évoquent des étapes qu'on ne peut pas vraiment situer au plan chronologique. Mais ce sont des textes qui sont très forts, très impressionnants, à mon avis. Ça a commencé par celui qu'on va découvrir maintenant. Il est dit qu'à un moment donné, il y eut une famine qui dura 3 années de suite. Et en Israël, le peuple de l'Alliance, dans l'ancienne Alliance, quand il y a une période comme ça de sécheresse, c'est très inquiétant parce que Dieu, normalement, a promis la bénédiction aussi au plan matériel sur les moissons. Alors, David a pris au sérieux ce qui se passait. Il a recherché la face de l'Éternel, la présence de l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, mais c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. C'est impressionnant, cette révélation qui est donnée là à David, et on le verra par la suite, que dans nos vies aussi, il peut y avoir des périodes de famine, de sécheresse, et que ça peut être bon de chercher la face de l'Éternel, de se poser des questions. Pourquoi, Seigneur, tu permets cela? Les Gabaonites, ça vous dit peut-être pas grand-chose, sauf si vous êtes habitué avec l'Ancien Testament. Il est précisé dans le texte que ce sont des gens qui ne faisaient pas vraiment partie des Israélites, mais c'était un reste des Amoréens. Des Cananéens. Hein. Et les Israélites, environ 300-400 ans avant l'histoire de David, s'étaient liés envers eux par un serment. C'était du temps de Josué, ça. Hein. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les fils d'Israël et de Juda. Donc il y avait un contrat d'alliance qui était là, à prendre au sérieux, parce que c'est Josué, serviteur de l'Éternel, qui avait passé cette alliance avec eux, même si les Gabaonites l'avaient roulé. Néanmoins, Dieu avait pris au sérieux cette démarche. Alors le roi appela les Gabaonites et leur dit, « Que puis-je faire pour vous et avec quoi ferai-je expiation ? Comment couvrir cette faute, ce mal, ce tort qui vous a été fait ?» Qui n'était pas rien de vouloir exterminer toute cette race, cette engeance. « Que ferai-je pour vous et avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Sous-entendu, ces Gabaonites commençaient à maudire le peuple d'Israël, et d'une manière assez légitime finalement, puisqu'ils avaient violé une alliance passée devant Dieu. Et les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est point pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa famille, et ce n'est point à nous qu'il appartient de faire mourir quelqu'un en Israël. » Donc on voit là derrière qu'il y a une attente de leur part que justice soit faite. Ce n'est pas une question de vengeance. Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous exposerons leur corps devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. C'est vrai que ces textes nous choquent. On a de la peine à se mettre dans la culture biblique, avec ses dimensions aussi collectives. Et en particulier, en l'occurrence, lorsque un roi en Israël, loin de la part d'Éternel, avait commis un tel acte de rupture d'alliance, alors il y avait la collectivité, l'ensemble de sa famille qui en subissait les répercussions. On reviendra là-dessus parce que, bien sûr, c'est difficile à accueillir, à accepter. Hein. Je pense, j'ai envie de dire, si on est normalement constitué, ça nous fait frémir. Alors, cette démarche de Saül, je l'ai mis un petit peu en graphique parce que c'est un peu compliqué, tous ces noms. En fait, Saül lui-même était mort. Son épouse officielle, on ne sait pas trop si elle vivait encore à l'époque. Tous ses fils étaient morts à la bataille ou assassinés d'une manière ou d'une autre. Ses deux filles, Merab ou Mical, on ne sait pas trop si elles vivaient encore à ce moment-là. J'ai mis un point d'interrogation aussi parce que les versions bibliques ne sont pas toutes identiques concernant les petits-enfants qui allaient être mis à mort s'ils venaient de Merab ou de Mical. Toujours est-il qu'on voit sur schéma, dans le fond, qu'il y a sept fils et petits-fils de Saül qui vont mourir. Les cinq fils qu'il va avoir avec ou Merab ou Mical, c'est-à-dire des petits-fils, et puis deux des fils que Saül a eu avec sa concubine. Par contre, Méphibosheth, petit-fils de Saül, à cause du serment que David avait passé avec Jonathan, qui était son ami, qui avait protégé David, qui lui avait sauvé la vie, eh bien, David s'était engagé à préserver la vie de Méphibosheth, donc il ne l'a pas livré aux Gabaonites. Voilà. Donc, c'est ce qui est dit dans 2 Samuel 21, 7 à 8. David épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment devant l'Éternel qu'avaient fait entre eux David et Jonathan. Mais le roi prit les deux fils que Merab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola. Il les livra entre les mains des Gabaonites qui exposèrent leur corps sur la montagne devant l'Éternel. Bien sûr, ces textes suscitent un tas de questions. Ça nous semble injuste. Mais qu'est-ce qui nous semble injuste, au fait? Est-ce la mort de ces sept descendants de Saül ou le fait que les Gabaonites ont failli être exterminés alors qu'ils étaient sous la protection d'une alliance? Vous voyez, on est un petit peu en tension avec tout ça, puis on se dit, mais comment Dieu va s'en sortir? Comment est-ce que David va pouvoir agir? Plein de questions qui sont soulevées. Comment est-ce que Dieu, un Dieu d'amour, peut-il et de justice, peut-il permettre que des enfants, des petits-enfants payent les pots cassés à quelque part? Normalement, c'est celui qui commet une faute et qui doit pouvoir rendre des comptes. C'est vrai qu'il faut aller là dans quelques textes de loi qui peuvent éclairer. Alors effectivement, il y a un texte dans Deutéronome 24, 16, « On ne fera pas mourir les pères pour les fils, et l'on ne fera pas mourir les fils pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. » Le fait est que là, il ne s'agit pas, à proprement parler, d'un péché individuel. Le fait d'avoir, par exemple, volé une vache à son voisin, ou d'avoir trompé quelqu'un d'autre à titre personnel. Là, il y a vraiment cette dimension collective qui apparaît. Il y a eu un serment solennel qui a été passé, ce serment a été violé et il a meurtri une ethnie qui est déstabilisée par ce qui est en train de se passer. Alors, le fait de violer un serment, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de grave, comme le sont certaines fautes dans l'Ancien Testament en particulier. Et dans la loi, il y avait aussi cette précision dans Exode 20, « Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » On a chanté le Dieu 3x5 tout à l'heure. C'est un Dieu jaloux, mais d'une saine jalousie, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Certaines abominations, la rupture d'une alliance, l'idolâtrie, la pratique, les pratiques occultes, fréquentation avec les devins, pratique de la divination, étaient des violations d'alliance très sensible, très importante. Et on se souvient que David, par exemple, lorsqu'il a commis adultère avec Bathsheba, a été spontanément pardonné parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Mais cela n'a pas évité le fait qu'il a dû être discipliné par Dieu, parce qu'il était celui sur lequel reposait l'onction. Il était un homme de référence au sein du peuple. Et il avait un témoignage excessivement important. Et il avait méprisé la loi, il avait méprisé l'alliance lui aussi. C'est donc qu'il y a parfois des choses à prendre particulièrement au sérieux. Et nous avons là besoin d'éclairage. C'est vrai qu'il y a aussi dans ce texte peut-être quelque chose qui nous heurte, parce qu'on a l'impression que ces hommes sont offerts comme pour un sacrifice d'expiation. Or, la loi interdit les sacrifices humains. Mais en fait, il ne s'agit pas d'un sacrifice humain, d'un sacrifice d'expiation. Il s'agit de justice, et encore aujourd'hui, bien sûr, ça évoque toutes les dimensions de la peine de mort, qui est encore en vigueur dans pas mal de pays, malgré tout. C'est vrai que si quelqu'un assassine quelqu'un d'autre, et surtout de manière préméditée, il y a encore des nations au sein desquelles, eh bien, c'est vraiment le sang qui a été versé, sera expié par un autre sang. Il y aura une justice qui va être accomplie. Et dans l'Ancien Testament, on est tout à fait dans ce cas de figure. Voilà, le côté pénible est passé, je l'ai roté pour préparer tout ça. Mais j'ai apprécié de pouvoir une fois approfondir ces dimensions. J'aimerais maintenant essayer, dans un deuxième temps, de rendre ces choses plus accessibles à notre situation dans le Nouveau Testament, et aussi des dimensions justement de, on peut dire, de péché générationnel, d'actes commis dans des familles par des individus X et Y, et qui peuvent avoir des répercussions sur plusieurs générations. J'en ferai pas une doctrine, donc ne me lapidez pas tout de suite, mais néanmoins, je trouve que ça vaut la peine d'y réfléchir. Et j'aimerais pas vous partager ces propos pour plomber l'atmosphère, pour vous culpabiliser, mais plus pour ouvrir des chemins dans vos cœurs, pourquoi pas pour vous provoquer à agir comme David, de se mettre à l'écoute de l'Éternel individuellement, pour chercher sa face, si vous vous identifiez avec peut-être des choses qui se passent dans vos familles et qui vous posent quand même des questions. Je donnerai quelques exemples à ce sujet. Et là, je ferai référence à ce cours dont on vous a parlé à quelques reprises, le cours Vive Libéré, au sein duquel on aborde la question des péchés générationnels, des malédictions qui peuvent être là, et comment le diable peut utiliser des éléments de la vie de nos familles pour essayer de faire des dégâts. Donc, encore une fois, je le dis, j'essaye en toute simplicité de cœur, et je suis ouvert, si jamais quelqu'un est troublé par ce que je vais dire, à vous rencontrer par la suite, bien entendu. Alors, quelques exemples que je vais tirer d'une brochure que Vive Libéré met à disposition concernant l'impact des péchés générationnels. Il y en a parfois dans l'Ancien Testament qui sont clairement soulignés, et aussi dans le Nouveau Testament, il y a des indices intéressants. Rapidement, je signale deux textes de l'Ancien Testament. Tout d'abord, le péché d'Acan. C'est dans le livre de Josué, on revient à Josué. Alors qu'il y avait pour Israël l'assurance de la victoire, dans la mesure où Israël obéissait à ce que l'Éternel disait, et que tout ce qu'on prenait des ennemis devait être détruit, là, Acan, lui, a convoité des richesses de l'ennemi, et il a mis ça sous sa tente. Mais voilà qu'Israël, ensuite, a perdu la bataille suivante, et Josué, comme David, a cherché la face de l'Éternel, qui lui a dit, il y a un interdit dans le camp. Vous pouvez lire ça dans Josué 7, et finalement, de fil en aiguille, le péché d'Acan a été mis en lumière, et lui a été lapidé, mais pas seulement lui, aussi ses enfants. Sont des actes, des démarches évidemment qui sont rudes hein, quand on lit ces textes. C'est pour ça que je comprends que beaucoup de gens disent l'Ancien Testament, mais c'est horrible. Je n'ai pas envie de lire ça. C'est vrai que ça nous renvoie tellement de choses qui sont peu évidentes. Lorsqu'Israël idolâtre, a été finalement emmené captif à Babylone. Les gens qui étaient en captivité ont reconnu que cet exil, qui a coûté cher au peuple d'Israël avec la destruction de Jérusalem et des milliers de morts, eh bien c'est eux qui ont porté la responsabilité et leur père. Mais finalement, ce qu'avait initié leur père au niveau de l'idolâtrie, eux avaient simplement et bêtement suivi à quelque part, avec un cœur dur et aveugle, et insensible au fait que Dieu avait envoyé des prophètes pour les avertir. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit ces paroles. Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils en tueront et en persécuteront, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Luc 11, les versets 49 à 51. Et Jésus va dénoncer ses péchés d'une manière très virulente, montrant que dans le fond, de génération en génération, il y a eu les mêmes travers, la même insensibilité à l'œuvre du Dieu. Et Jésus lui-même, comme prophète, il est fils de Dieu, bien sûr, mais il a aussi exercé un ministère de prophète, lui-même va être rejeté, crucifié. Et on sait que cela aura beaucoup de conséquences. Lors du jugement de Jésus, lors de son procès, Pilate s'est lavé les mains en présence de la foule et il a dit « Je suis innocent du sang de ce juste ». Sa femme l'avait prévenu, elle avait reçu un songe, sa femme. Elle réalisait que la décision qu'allait prendre son mari de laisser crucifier Jésus allait avoir des conséquences douloureuses et lourdes de sens. Alors Pilate dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde ». Et la foule des Juifs qui est là dit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Garantie qu'une parole comme ça, ça a ébranlé pas mal de juifs au cours de l'histoire, notamment par rapport à la Shoah. Donc ce sont des sujets délicats qui sont douloureux. Heureusement, la Bible, l'Évangile est une bonne nouvelle. Quand il y a eu prise de conscience de cela, eh bien justement parce que Dieu avait donné aussi des promesses, il savait que son peuple allait être infidèle. Mais il avait dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. De Chroniques 7, 14. Effectivement, les prophètes en exil, comme Daniel, se sont identifiés au péché de leur père et ils ont demandé pardon, ils ont intercédé pour la nation. Et Dieu a exaucé, il a permis qu'un reste revienne d'exil, que Jérusalem soit reconstruite. Que finalement ce peuple puisse continuer son parcours alors qu'il aurait pu être complètement exterminé. Donc finalement, dans nos vies, comment est-ce que ces choses peuvent être interpellantes? Tout au long de ces années, j'ai été assez régulièrement confronté à des situations comme ça, de famille, notamment quand il y a eu des divisions dans des églises, que les gens n'ont pas vraiment continué à se bénir, mais plutôt à s'excommunier, à s'anathémiser, à prononcer des paroles de critique très dures. Enfin, ça a eu un impact. Ça n'a pas touché seulement les pères, mais aussi les enfants. Et parfois, j'ai entendu des histoires très tristes suite à des divisions où les gens ne se parlent plus et vraiment ne se... Il y a toutes sortes d'éléments qui peuvent entrer en considération. Ça porte des préjudices sur des générations et des générations. Je lisais aussi un livre, Shannon, édité par la Maison de la Bible. J'ai bien aimé ça parce que la Maison de la Bible, c'est impeccable. C'est vraiment poser les fondements, nickel, 100%. Alors quand ils éditent un livre comme ça, c'est pas à la légère. L'histoire de Shannon, une jeune femme brésilienne qui a été abusée par son grand-père, aussi par son oncle, qui est allé vivre ensuite aux États-Unis chez son père, qui l'a battu, mais quasiment à mort. Elle s'est rendue compte que son propre frère aussi était battu à mort par le papa. Et puis, après bien des années de souffrance, de galère, elle a pu rencontrer le Seigneur et son père a rencontré aussi le Seigneur. À un moment donné, il y a eu confrontation. Et son père lui a dit que son propre papa, à ce père, l'avait aussi battu quasiment à mort. Donc, de génération en génération, il y avait comme des jougs qui étaient là sur des familles. Et ça existe encore aujourd'hui. Malheureusement, quand je parle avec des Sud-Américains ou des Africains, ils savent tout de suite de quoi on parle quand on évoque ces questions des péchés générationnels. En Occident, on dit « Mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce que tu viens nous raconter ?» Voilà. Alors, certaines situations d'épreuve peuvent être parfois, en tout cas, en lien avec des péchés générationnels. Quand il s'agit, là je fais référence à cette brochure d'entraînement à la vie de prière pour les équipiers de Vivre Libéré, quand il y a certains péchés persistants dans des familles, des fausses attitudes, des traits de caractère, des comportements addictifs, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe. Dans le livre « Vive libéré » qui accompagne le cours, il y a plusieurs témoignages à cet égard, notamment celui d'une femme qui a découvert que dans sa famille, il y avait de la haine entre les femmes elles-mêmes, et ce depuis des générations. Et c'est suite à tout un cheminement, une réflexion devant Dieu avec l'aide de gens matures dans la foi, qu'elle a pu discerner qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes. Ce n'est pas du tout ce que Dieu voulait. Et elle-même en souffrait parce qu'avec ses propres filles, elle avait une relation difficile. Elle a pu faire tout un chemin, des démarches aussi de réconciliation, demander pardon à ses filles, demander pardon à sa mère. Et à partir de là, cette famille a commencé à vivre des choses très, très différentes. Il y a eu comme une rupture de ce lien générationnel, cette malédiction générationnelle qui était là. Le diable était entré dans cette famille et causait des dégâts redoutables. Je pourrais donner beaucoup de témoignages, mais le temps file, il faut que j'aille plus loin. J'aimerais donner encore un seul témoignage, bref, d'une expérience que j'ai vécue ici, comme équipier de prière lors du cours à l'Ascension. Ça m'a beaucoup touché. Je me suis retrouvé avec un homme quasiment de mon âge, et puis assez vite avec les équipiers, il nous a dit « Moi j'ai un grand combat dans ma vie, je me rends compte que j'ai un esprit de contrôle en moi. » On lui a dit « Moi c'est dommage qu'ils nous disent un peu ce qui se passe parce que normalement les équipiers aiment bien prendre du temps pour écouter Dieu sans que la personne nous donne des indications. » Mais enfin, voilà, sur cette base, on a commencé à tâtonner un petit peu. Et ce qui venait sur notre esprit comme équipier, c'est de se dire « Mais pourquoi cet homme vit cela ?» Et son lien, quelle est la racine qui est en lien avec cela? Est-ce qu'il y a un déficit d'amour? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme dans sa vie? Est-ce qu'il y a eu des injustices? Et puis on tâtonnait, l'homme nous disait non, s'il y a eu des parents, j'étais heureux avec mes parents, enfin, moi je n'ai pas souffert d'injustice. Et on s'est mis de nouveau dans la prière et il y a un mot qui est venu sur notre cœur, c'est le mot occultisme. Et on lui a dit, mais est-ce que ce mot vous dit quelque chose, vous parle occultisme? Il a réfléchi un moment, il dit oh, « Je ne vois pas tellement, non, je ne sais pas. Bon, j'avais un grand-père qui était guérisseur, mais à part ça, je ne vois pas. » « Ah bon? Grand-père guérisseur ?» Et on a pu le rendre sensible au fait qu'il avait reçu un secret, ce grand-père, que c'était quelque chose que Dieu ne voulait pas. Et après, il nous a dit « Bon, c'est vrai que mon frère, il est en plein dans l'occultisme aujourd'hui. Je me suis souvent demandé pourquoi, parce que c'est bizarre. Moi, je lui ai témoigné ma foi plusieurs fois. Il semble insensible à la foi et il est toujours plus attiré vers l'occultisme. Et puis, en creusant un petit peu, il disait, oui. Puis, à mon propre père, dans le fond, il a eu beaucoup de reproches parce que quand mon grand-père est mort dans des circonstances tragiques, il a eu un accident, eh bien, beaucoup lui ont reproché de n'avoir pas pu au moins recueillir le secret du grand-père pour pouvoir pratiquer lui-même la guérison qui n'est pas une guérison divine. Et tout d'un coup, ça a flashé. Cet homme, il a pris conscience, et on l'a conduit dans ce sens, qu'il pouvait demander pardon à Dieu pour ce trafic avec les puissances qui avait été là, inscrit dans sa famille, et qui avait des conséquences aujourd'hui encore, dans la vie de son frère bien sûr, mais je crois aussi lui-même par rapport à cet esprit de contrôle qui le rendait malheureux à quelque part. Eh bien, il y a des choses qui ont pu être coupées et qui étaient magnifiques. Alors j'arrive au bout, Christian me donne 2 minutes après, il monte en chaire, donc il faut que je termine, je conclue. Il y a un épilogue qui est magnifique, on n'a pas le temps de lire ça, je le résume en quelques mots. Suite à cette pendaison de ces 7 fils, les cadavres sont laissés comme ça, à l'air libre. Et puis Ritzpa, la concubine de Saül, va prendre un sac, l'étendre sous elle contre le rocher. Depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que l'eau du ciel tombe sur elle, protège les cadavres et les eaux, parce qu'il y a une malédiction. Si on laisse comme ça des cadavres, il y a respect de la vie humaine, même les morts, on les respecte. Et puis elle se donne, cette femme, pour l'honneur de la famille, même si elle n'est pas l'épouse officielle. Elle ne veut pas que cette famille qu'elle aime puisse vivre encore de telles tribulations. Et David est touché par cet acte de piété que cette femme exerce, parce qu'elle respecte à ce moment-là ce que la loi disait dans le Deutéronome au sujet des cadavres. Et elle va être admirable, cette femme. Et David va lui donner une sépulture convenable. Il va faire rechercher les os de Saül et de Jonathan, et il va les mettre ensemble avec les os de ces 7 hommes qui ont péri de cette manière. Et il est dit que l'Éternel fut apaisé envers le pays, la pluie est revenue, David était en paix, il avait dû être l'instrument d'une justice que Dieu voulait exercer dans le pays. Encore une fois, ce n'était pas du tout une vengeance. Et j'ai envie de dire, le défi pour moi dans ces textes et par rapport à ces paroles, c'est de se dire, tiens Seigneur, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans notre famille, des choses qui sont un peu bizarres quand même, et même carrément bizarres. Est-ce qu'il y aurait lieu peut-être de chercher ta face, de te demander de nous montrer, de me montrer s'il y aurait des éléments de ce type que j'ai partagés ce matin. Et je crois que Dieu peut nous montrer des choses, il peut nous conduire dans des démarches de prière, et qu'il peut y avoir des apaisements qui sont accordés. Et c'est magnifique parce qu'au sein des pages les plus sombres de la Bible, parce que vous êtes d'accord que c'est un texte qui est dur, eh bien, il y a tout d'un coup une lumière qui vient dans le tunnel. Et c'est porteur d'une espérance pour la suite. Alors que Dieu nous vienne en aide.